Fabien Vandamme, qui fait une thèse sur l'art sonore, qui s'intitule « La musique hors d'elle-même ». Et là, il va nous présenter une conférence qui s'appelle « À perte d'audition ». Donc, tout un programme. Et ce qui m'intéressait, moi, c'était que Fabien s'intéressait lui-même à des artistes sonores et visuels qui travaillent en relation avec des lieux, avec des sites, et qu'il s'intéressait aussi à la question de la limite et du pli dont on a parlé ce matin, dont Esther a parlé. Alors moi, ce qui m'intéresse aussi, justement, à travers cette notion, c'est comment est-ce que les lieux, comment les artistes, par le biais des sons, peuvent inventer, créer et transformer des lieux, en créer certains complètement fictifs, hein, imaginaires. Ça a été aussi évoqué ce matin à travers le travail de certains artistes. Et c'est aussi ce qui a concerné le travail de Locus Sonus dans la pièce qui a été présentée au 3BICEF l'année dernière, enfin, cette année, qui m'a aussi beaucoup intéressée, dans la mesure où, en tant que spectateur, on est projeté dans un autre espace, dans d'autres espaces, et que finalement le dispositif qui est créé, c'est une forme de machine, hein, j'irais explorer l'espace et un certain temps donné aussi. Hein, donc on retrouve cette question de jeu qui joue, enfin de jeu entre le, on va dire de jeu entre le temps et l'espace. Donc voilà, en fait c'est la question qui se pose aussi dans Symposium, c'est justement qu'est-ce que l'on fait à partir de ces traces qui sont ramenées dans un lieu. Quelle est la part de... Moi, j'interroge aussi l'installation qui a été produite au 3BICEF, hein, par Locus Sonus, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on construit à partir de ces traces. Et là, je pense que c'est quelque chose qui concerne aussi le cinéma, hein, c'est-à-dire la question du montage. Et donc, moi, c'est ces questions moi, qui m'intéressent et que j'aimerais qu'on puisse débattre, en fait, lors de cette journée ou demain, c'est-à-dire cette question de la construction. Alors, c'est un peu vague, hein, pour l'instant, ça reste encore assez abstrait. Donc moi, c'est donc je continue encore un tout petit peu. Donc moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est la question de la perturbation d'espace et de temps. Pour ça, il y a un travail d'un artiste qui m'intéresse beaucoup, c'est le travail de Max Neuhaus, par exemple, qui intervient, qui ne ramène pas des traces d'un lieu en fait dans un autre espace, mais qui intervient directement in situ. Dans un espace, enfin, ce qu'il fait, je pense que vous connaissez sans doute son travail, hein, mais il a créé des pièces qui s'appellent, une pièce qui s'appelle Times Square, en fait, où il installe, en fait, il crée des blocs de son à l'intérieur de la ville. Donc on va se retrouver dans la pièce de Times Square avec des sons de cloches, hein, tout d'un coup, dans un espace urbain. Donc on est de manière très subtile. On touche la question de l'invisibilité. Et je pense que c'est une question qui intéresse aussi Fabien, qui peut nous intéresser aussi, c'est-à-dire à la question d'un geste, d'un micro-geste qui déplace, qui inscrit un geste de déplacement à l'intérieur de la réalité. Alors, c'est justement moi, ce qui m'avait aussi intéressé dans le travail d'une pièce de Beaubourg qui était dans l'exposition Sonic Process. Le travail de Flow Motion, où justement, il y avait cette part, il y avait la présence du son et en même temps une part d'invisibilité très flagrante, puisqu'on était effectivement immergé, enfin, on était dans un espace, une pièce entièrement noire, et le son nous arrivait par des haut-parleurs, de manière, par des capteurs en fait, qui étaient placés sur l'architecture de Beaubourg. Donc on avait le son qui arrivait en temps réel dans l'installation. Et du coup, ce qui me plaisait vraiment, c'est cette idée d'invisibilité du dispositif, le fait qu'on soit complètement immergé de manière physique dans le son, et en même temps, une forme de, tout d'un coup, de rapport évidemment intérieur-extérieur, et aussi une forme d'immatérialité du dispositif. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je... Donc pour toutes ces questions, j'imagine que tu vas peut-être en parler à travers, de manière, dans le désordre, enfin dans un autre ordre.
Dans le désordre.
Dans le désordre. Voilà, et c'est aussi, j'avais envie d'intervenir, enfin aussi d'inviter Fabien par rapport à ces rapports entre justement ces questions de frontières entre art, le champ de la musique aussi qui t'intéresse, justement pourquoi... quels sont les rapports entre les deux domaines. Bon, ça, peut-être qu'on t'en parlera peut-être vers la fin. Mais aussi, donc, cette année, on va faire à l'école aussi, pour les étudiants de 3e, 4e, 5e année, un cours sur la notion de partition, de protocole, aussi procédure et programmation. Donc c'est un cours qui va s'appeler PPPP. Donc on va rajouter sans doute un autre terme qui est celui de la perturbation. Ça sera sans doute pour l'année prochaine. Et il me semble que cette question du protocole, on l'a aussi abordée aujourd'hui. Hein, ça a été cité par, ça a été abordé par par Peter aussi. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse justement dans la question du protocole, c'est toute cette tout ce qu'on peut justement, comment le protocole, à un moment donné, peut être subverti, peut être complètement ouvert. Et c'est là que se crée l'indétermination, le hasard, et justement les choses qui émergent, enfin qui se produisent quand il y a du stream, c'est justement ces parts de surprise qui arrivent et les choses de la vie qui tout d'un coup vont rentrer à l'intérieur de ces réseaux, de ces canaux. Voilà, donc c'est effectivement cette question de la limite, hein, dont je crois sur laquelle tu travailles, c'est-à-dire cette ligne qui est une ligne, quelque chose de géométrique, enfin, quelque chose de précis, en même temps qui peut s'ouvrir, se distendre, s'élargir et faire rentrer des choses de la vie. Voilà, mais je vais te laisser tout de suite la parole.
Très bien, merci. Oui, effectivement, c'est un peu la question de la limite que je voudrais aborder aujourd'hui. Question de la limite qui rejoint, à mon sens, celle du paysage, c'est-à-dire celle qui se pose directement, évidemment, dans le locus sonus, celle qui se pose à l'art sonore de manière générale actuellement. C'est à partir en fait d'un texte récent de Jean-Luc Nancy. Que je voudrais reproposer une définition du paysage sonore, terme qui existait déjà et qui, à mon sens, pose un certain nombre de problèmes. Jean-Luc Nancy, en 2003, a publié dans un ouvrage qui s'appelle Au fond des images, un texte qui s'appelle Paysage avec dépaysement. Parallèlement à ça, on peut d'ailleurs noter que Jean-Luc Nancy, depuis quelque temps, travaille justement sur la question de l'écoute, du son, de l'audition et aussi celle de la résonance. Que l'on va également rencontrer. Sa définition du paysage, qui l'oppose principalement à celle, par exemple, du jardin, c'est que le paysage suppose, en premier lieu, une vision à perte de vue. Alors que le jardin va être clos, délimité, même s'il y a des parties dans les jardins, ce qu'il note lui-même, qui peuvent être invisibles, même si la perte de vue peut parfois avoir lieu, c'est le paysage qui va réellement réaliser ce principe de cette perte de vue. Et d'autre part, ce qu'il note et ce qu'il extrait un petit peu du paysage, c'est que le paysage, c'est quelque chose qui va s'ouvrir de soi-même, qui va s'ouvrir donc à partir de sa propre limite. On retrouve déjà la question de la limite ou du seuil qui sont effectivement chers à Nancy et qui sont intéressantes pour justement réinterroger les limites géographiques, y compris celles de l'art sonore. Alors le paysage de Nancy, finalement, s'ouvrant comme ça de lui-même et se déroulant à perte de vue, semble impliquer, dès le départ, une sorte de dimension temporelle qui vient un petit peu, non pas contredire, mais en tout cas relativiser sa dimension spatiale qui généralement aide à définir le dit paysage. Donc, si vous voulez, alors que les limites spatiales du paysage, ses bords, son cadre, etc., notamment dans le paysage pictural, tendent effectivement à le fermer, même si cela peut supposer aussi un hors-champ, la limite ainsi ouverte par le paysage chez Jean-Luc Nancy est une limite qui, effectivement, comme je le disais, s'ouvre à perte de vue. À perte de vue, cela suppose aussi une forme d'illimitation. C'est là où on va déjà commencer à rencontrer justement la dimension tout à fait temporelle du paysage. Une illimitation en rapport à l'infini, à partir, c'est là tout le paradoxe et c'est là finalement tout l'intérêt de cette limite même. Hein. Chez Nancy, on est toujours sur ce bord, sur cette limite. Et donc, si vous voulez, c'est une question qui peut complètement renouveler cette question des limites et des frontières. Voilà. Alors, Nancy, dans ce texte, en fait, ne fait pas mention d'un paysage qui serait un paysage sonore. Il parle seulement à un tout petit moment de la musique et du son. parlant justement de cette dimension temporelle du paysage qu'on pourrait retrouver aussi dans la musique, mais on demeure à l'acception, en tout cas visuelle, du terme. Néanmoins, en menant ce paysage comme ça de Nancy sur le terrain de la musique, effectivement, on peut réaliser peut-être davantage cette dimension tout à fait temporelle, potentiellement illimitée, qui est contenue dans et par cette limite. Voilà. Alors le premier point, justement, c'est de confronter ce paysage sonore nouveau, hein, illimité, au paysage sonore tel qu'il avait pu être défini dans les années 70 par Robert Murray Schafer, qui est l'initiateur du World Soundscape Project, l'un des premiers projets à si grande envergure, d'archivage et de description de sons, notamment de sons en voie de disparition. Ce qui est étonnant, justement, c'est que le paysage sonore, ou soundscape, selon sa terminologie anglo-saxonne chez Murray Schafer, ce paysage sonore est au contraire complètement rabattu en fait, sur une dimension tout à fait spatiale, qui ne sera plus du tout une dimension d'illimitation, mais au contraire une dimension de limite et une dimension de fixation par le biais de plusieurs repères. Et d'autre part, le point que l'on peut faire en rapport avec le paysage visuel traditionnel tel qu'on le connaît, tel que finalement va l'extraire Murray Schafer, c'est justement sa distinction des différents sons qu'il faut enregistrer ou décrire, qui donc relève complètement en fait d'une acception visuelle du terme. Il parle en fait d'un fond qui serait la keynote, qui serait donc ce fond en fait sonore qui contiendrait tout un tas d'informations sonores plutôt bruyantes ou bruitistes selon lui d'ailleurs, puisqu'il va conserver justement une forme de distinction par rapport à cela. Un fond qui serait assez peu audible, ou en tout cas que l'oreille ne sélectionnerait pas, et surtout que dans son projet esthétique, il cherche plutôt à expulser, puis distinguer ensuite deux formes de figures, qui sont la soundmark, l'empreinte sonore, et le signal, le signal, l'un étant en fait des sons qui sont typiques comme ça d'une société ou d'une civilisation. Il prend l'exemple, je crois, des sirènes de police, enfin bref, des sons de train, des choses comme ça. Et la soundmark qui serait un rapport davantage subjectif à ces figures, là aussi connues. Et c'est là qu'on commence à voir en fait le grand problème, à mon sens, du paysage sonore chez Murray Schafer. C'est justement cette limitation et ce repli, somme toute, identitaire. Qu'on peut trouver dans le paysage sonore puisque la soundmark ça va être quelque chose donc qui renvoie à des sons subjectifs, des sons qui sont issus de notre propre histoire. Lui parle beaucoup justement des sons de son enfance et poursuivant sa réflexion en fait va rejeter un grand nombre en fait de sons ou de bruits. Donc il y a une sélection là, extrêmement hiérarchique. Qui nous rappelle la composition occidentale traditionnelle, hein, composition hiérarchisée, centrée autour d'éléments comme ça ou de points importants. Donc une dimension non temporelle du paysage, puisque tout a sa position, si vous voulez, et tout doit y rester. Voilà, Nancy, au contraire, va essayer d'ouvrir le paysage. Mais ce qui est intéressant dans sa définition... je le disais en préambule, c'est que justement cette ouverture se fera par la limite même et par là même la nouveauté qu'on peut un peu dégager en fait de ce nouveau territoire, non pas nécessairement déjà déterritorialisé pour reprendre la terminologie de Deleuze, mais en voie de déterritorialisation. Ce nouveau paysage finalement ira aussi, non pas à l'encontre, mais en tout cas va renouveler ce qui pouvait auparavant, si vous voulez, guider un certain nombre de pratiques, que ce soit des pratiques politiques ou des pratiques esthétiques, qui étaient davantage de l'ordre de la transgression, c'est-à-dire du dépassement des limites ou du hors-limite. Voilà. La position de Nancy est tout autre, puisqu'elle se situe, donc, comme je le disais, sur la limite même. Donc on a un rapport qui n'est plus de l'ordre de la transgression, tel qu'il a pu être, par exemple, pratiqué dans la musique... dans la noise japonaise en particulier, peut-être avec Merzbow, qui joue sur la transgression à la fois dans l'imagerie, dans les procédures qui sont assez liées au sadomasochisme, au bondage, etc., mais qui joue aussi dans la musique, justement, sur une forme de transgression des limites, limite de l'audible, limite du supportable, supportable donc pour les oreilles, pour le corps, etc., qu'il s'agit de transgresser, qui a pu être donc un modèle assez important. Voilà. D'autre part, je voudrais signaler que dans l'art sonore, justement, on trouve toujours ces deux rapports, et à mon sens, l'intérêt actuel des formes d'art sonore serait d'aller justement soit sur ce schéma qui existe déjà de la transgression, soit sur cette question de la limite ouverte, mais certainement pas ce qui est peut-être le danger principal qu'il guette, de se reterritorialiser, de retrouver d'autres limites qui n'étaient pas les siennes, puisqu'effectivement, on a pu remarquer dans cette explosion, si vous voulez, de propositions comme ça sonores au sein de l'espace artistique, j'entends par là au sein des arts plastiques, une forme aussi de légitimation a posteriori, après coup, de la musique, avec une capture de la part des arts plastiques de la musique, les arts plastiques qui sont à la recherche comme ça, ou en tout cas à la rencontre de différents modèles depuis plusieurs années déjà. Et puis d'autre part, cette infiltration, toujours au risque de cette légitimation, donc d'une forme de reterritorialisation de la musique vers les arts plastiques. Précisément, je voudrais citer quelques procédures, quelques propositions qui me semblent, sans aller dans ce modèle de la transgression, ni en allant d'ailleurs, une autre possibilité que j'ai oublié de mentionner, ni en allant donc dans l'abandon de toute limite, puisque la transgression, Bataille l'a très bien dit, a besoin de maintenir ses limites pour pouvoir les transgresser ou les dépasser. On a toujours ce maintien des limites qui est extrêmement important dans la transgression, ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment, d'une volonté d'abandon de toute limite. Bref, je voudrais donc vous parler de certaines propositions et procédures qui me semblent aller dans ce sens du paysage sonore, si on peut l'appeler ainsi, qu'on pouvait retrouver chez Nancy, en lui donnant une dimension plus temporelle encore. Voilà, ce qui est étonnant aussi, avant même d'aborder directement certaines pratiques artistiques, ce qui est à interroger, à mon avis, dans ces pratiques, c'est justement ce rapport de l'espace au temps, ce rapport aussi, je parlais justement d'une limite qui s'ouvre et qui donc devient temporelle, ce rapport à un espace qui deviendrait lui-même nécessairement ouvert. Ce qu'il y avait justement chez Murray Schafer dans son paysage sonore, ce n'était ni plus ni moins, j'en parlais en faisant référence à la composition traditionnelle, ni plus ni moins finalement qu'une annexion du temps par l'espace, tel qu'il a pu être critiqué par exemple par Gilles Deleuze à la suite de Bergson, dans toute sa théorie sur le mouvement et la durée, notamment et en particulier en fait en préambule de ses ouvrages sur le cinéma dans l'image mouvement, où il rappelle qu'on ne peut approcher le temps en l'envisageant comme un ensemble de positions comme ça qui seraient fixées dans l'espace en fait. À partir de là, justement, il va être assez critique avec la composition traditionnelle, cette composition hiérarchique, qu'on peut ou pouvait aussi retrouver justement en musique, avec ce principe de début, milieu, fin, avec ces moments remarquables ou favoris, par exemple dans la tragédie, avec des moments donc vers lesquels, si vous voulez, tous les autres moments moins importants en tant que tels glissaient, mais donc une forme comme ça de spatialisation du temps qui va être complètement, à mon sens, inversée dans l'art sonore, en tout cas dans certaines pratiques depuis plusieurs années, pas seulement des pratiques récentes, mais on le trouve aussi dans de nombreuses avant-gardes du XXe siècle, à savoir qu'au contraire, c'est l'espace qui va lui-même devenir temporel, en fait. Un espace mouvant qui sera lui-même générateur d'un temps ouvert, d'un temps toujours à venir. Donc on a aussi cette idée de potentialité qui rejoint celle d'illimité ou d'infini, qui se retrouve dans l'espace lui-même, si vous voulez, dans ce territoire comme ça ouvert, qui me semble important dans l'art sonore, et qui rejoint aussi une autre idée très très importante, qui est celle, justement, là où l'espace, lorsque l'espace, si vous voulez, est envisagé en tant qu'un ensemble de points fixes comme ça et de repères de repère figé, il perd cette qualité possible qui est... Oui. Excusez-moi, je m'étais un petit peu perdu en route moi-même. Mais c'est le thème, justement, de cette intervention, qui est la possibilité de la désorientation. Voilà, et ça me semble aussi être l'autre point important, voilà, l'autre point important de certaines pratiques récentes en particulier, qui sont celles d'une désorientation de l'auditeur au sein même de l'espace, et donc d'une reconfiguration, mais sans cesse potentielle et constante, donc d'espaces qui parfois préexistent, mais qui vont donc devenir autres, qui vont complètement se transformer. Bien, alors il y a un mouvement en particulier peut-être dans lequel on pourrait retrouver justement une forme de création de paysages, de dispositifs sonores qui joueraient comme ça sur cette désorientation tout en restant sur cette limite. C'est la forme qu'on a pu taxer en fait à tort à mon sens d'ultra-minimalisme ou de microsound. Il y a eu un certain nombre comme ça d'appellations ces dernières années pour qualifier un certain nombre de pratiques, principalement numériques, qui effectivement participent d'une forme de réduction, une réduction un petit peu paradoxale, comme on va le voir, mais qui, en tout cas, c'est leur principe peut-être le plus audible, pour le coup, travaillent énormément sur des sons qui, déjà, justement, se trouvent sur certaines limites, qui sont les limites de l'audible pour nous autres humains, c'est-à-dire qu'on entend... dans un spectre de 16 à 16 000 Hz ou de 20 à 20 000 Hz selon les sources, un spectre qui se réduirait un petit peu probablement justement dans l'ère post-industrielle, étant donné qu'on est davantage bombardé de sons et de bruits. Quoi qu'il en soit, tous les sons qui vont se trouver comme ça à la limite, c'est-à-dire qui vont être prêts de devenir complètement inaudibles, ont été particulièrement traqués et utilisés ces dernières années. Y compris effectivement dans des pratiques qui ont pu être qualifiées d'ultra-minimales. Je voudrais vous parler par exemple de Bernard Günther, qui a été l'un des premiers à travailler sur une musique comme ça, dans laquelle interviennent très très peu d'éléments, soit très très aigus, donc à l'une des limites du spectre, soit au contraire très grave, et qui d'autre part a travaillé sur un volume extrêmement faible, extrêmement bas, qui donc se situe effectivement complètement à l'inverse du modèle de la noise, qui cherche au contraire à dépasser de l'autre côté, si vous voulez, les limites du supportable, mais qui cependant a travaillé sur des fréquences qui ont ceci de particulier, c'est que étant en fait à la lisière de l'inaudible, hein, puisque passé une certaine barrière, on les entend plus, certains animaux peuvent les entendre, bref, étant situé sur cette barrière comme ça, au-delà de laquelle ils deviendraient inaudibles, ils deviennent généralement extrêmement audibles. Je pense en particulier aux fréquences extrêmement aiguës qui, pour un certain nombre de personnes, vont provoquer une forme de gêne, parfois physique. Et puis d'autre part, je pense également aux fréquences très très basses, qui là, c'est l'autre aspect assez intéressant finalement de cette musique que je me propose pour le coup justement d'appeler davantage mini-maximaliste, puisque même en réduisant, si vous voulez, que ce soit le volume, que ce soit le nombre d'éléments dans son agencement, dans son processus, elle va proposer une présence qui sera quand même parfois extrêmement forte. Donc des fréquences basses qui ne feront cette fois plus nécessairement appel aux seules oreilles. C'est l'autre point un petit peu important finalement de cette musique, c'est qu'elle s'adresse au corps tout entier. Elle s'adresse au corps comme objet résonnant, comme objet de résonance. Et là encore, c'est une autre forme de limite, finalement, ou de paysage qui s'ouvrirait de lui-même, qui serait celui de l'humain lui-même. D'où, à mon sens, le fait que ces dernières années, effectivement, ce soit des musiciens qui investissent davantage l'espace des musées-galeries, là, pour le coup, pas dans une volonté de légitimation, mais plutôt parce que la déambulation et l'aspect... de partage beaucoup plus délié, beaucoup plus lâche que dans un concert, on est tous tournés vers une sorte d'objectif commun, ce qui a pu être très critiqué par ailleurs. Cette déambulation comme ça passagère me semble relever davantage de ce qui se dégage de leur propre musique. Bien, pour appuyer mon propos, je vous propose de vous faire écouter quelques extraits. Ici, un extrait du deuxième album de Bernard Günther qui était paru... dans sa première édition, en 1994 sur le label Sélection, avant de reparaître chez Table of the Elements en 1999, et puis je crois très récemment sur le propre label de Günther, qui remasterise assez fréquemment ses pièces. Bref, c'est l'extrait d'un album qui s'appelle Détails agrandis, où on voit d'ailleurs dans le titre un autre aspect finalement de cette musique qui rejoint justement cet aspect mini-max, micro-macro. C'est qu'on a effectivement cette volonté d'agrandir, qu'on retrouvera beaucoup aussi dans le minimalisme japonais, d'agrandir comme ça des détails qui pourraient ne pas être audibles à l'oreille humaine. Mais parallèlement à cela, ce qui est un peu moins dit, c'est qu'on va aussi trouver une forme d'enfouissement ou de mise à distance de sons que l'on supposerait généralement beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants, des sons qui peuvent rappeler justement des expériences dans la drone notamment, très très physiques, lorsque cette musique est jouée très très fort, et qui là au contraire sont complètement enfouis et vont se trouver donc en dialogue assez curieux, assez paradoxal, dans un rapport d'échelle complètement différent. Donc là aussi on a un rapport géographique complètement fictionné et complètement transformé, qui vont se trouver donc en dialogue sur une surface, si vous voulez, similaire. Voilà, donc ça c'est un extrait du premier morceau de Détails agrandis. Mais alors là, c'était presque fort pour vous donner une idée par rapport à ces concerts habituels, par exemple. Et on va retrouver, finalement, on va pouvoir comme ça creuser et trouver d'autres formes de limites dans sa musique, ainsi que dans celle d'autres acteurs de cette scène, principalement Richard Chartier aussi, qui travaille beaucoup sur ces sons comme ça, très très limites. À la fois limites temporelles, qui joue sur l'illimité, sur la disparition, puisque c'est une musique qui, finalement, va reconnaître cette qualité passagère. On retrouve aussi le paysage comme passage qu'il pouvait y avoir chez Nancy, hein, il en parle comme d'un passage. Cette qualité passagère, cette fois au sens temporel du terme, du son qui est toujours, au moment même de sa formation, est toujours aussi en train de disparaître. Donc cette disparition toujours annoncée, toujours en devenir, finalement, du son qui me semble, devient très très audible dans ce type de pièce. D'autant, si vous voulez, ce qu'on n'a pas vraiment le temps de faire aujourd'hui, que dans la durée, on a pu l'entendre un petit moment. Là, c'était une seule pièce, hein, pour l'instant, enfin un extrait assez court d'une seule pièce. Dans la durée, Günther va jouer lui-même sur des propres silences au sein de sa musique et va jouer sur la réapparition, disparition de certains éléments, ce qu'on retrouve là aussi chez Richard Chartier. Mais bref, cette présence est paradoxale puisqu'elle affirme elle-même sa propre disparition, ce qui n'est plus tellement le modèle de la présence-absence telle qu'elle pouvait être défendue dans les années 60 ou 70, qui était la présence d'une absence, mais au contraire un son qui va être à la fois présence et absence, et qui va, à mon sens, en fait, provoquer un art vraiment du doute, un art du doute quant à ce qu'on entend, et un art du doute aussi quant à ce qui est contenu en fait dans cette pièce même, c'est-à-dire par exemple ici dans ce CD, parce que bien entendu l'extrême lenteur avec laquelle les éléments vont apparaître ou disparaître, le fait qu'ils se trouvent pour certains d'entre eux aux extrêmes du spectre, c'est-à-dire aux extrêmes de l'inaudible, vont faire en sorte que l'on se met à douter de leur existence même, d'autant plus, évidemment, étant donné que cette musique est jouée toujours très très bas, que ce soit en concert, en installation, et puis d'autre part, les CD qui sont mis dans le commerce sont mixés de façon très très basse, donc si vous mettez un volume tout à fait normal, vous aurez là encore cette dimension assez faible, assez distante du son, d'autant plus évidemment que cela va ouvrir aussi à l'audition évidemment d'autres sons accidentels ou d'autres événements ou micro-événements comme ça sonores, qui parfois peuvent s'apparenter en plus aux sons qui sont utilisés par Günther, par Chartier, par tous ces musiciens, et donc nous faire douter de l'existence même du son. Et nous faire aussi confondre un petit peu ce qui réellement au départ est contenu dans la pièce musicale en tant que telle, et puis ce qui d'autre part survient comme événement, comme ça singulier, événement sonore au moment de l'écoute. Voilà. Donc quand ces fréquences basses, par exemple, chez Richard Chartier, baissent de manière très très faible, si vous voulez, on a aussi une imagination possible pour voir qui peut parfois nous les faire entendre, parfois nous faire douter de leur présence. Et puis d'autre part, on a aussi le phénomène à l'écoute prolongée parfois de certaines de ces musiques, phénomène qu'on appelle acouphène, qui sont ces sons qui sont produits par l'oreille interne, dont certains souffrent plus que d'autres, mais qui sont des sons, là encore, qui sont très très proches justement de ces sons limites, qui sont souvent des sons, soit des sons très très aigus, soit des bourdonnements. La typologie en fait des acouphènes est très très proche de la typologie de la musique dite ultra-minimaliste, donc de cette musique mini-maximaliste, hein, bourdonnement, fréquence aiguë, tous ces sons-là, voilà, qu'on peut retrouver. Voilà, donc ce doute est aussi... joue aussi de cette limite, et évidemment ce qui va faire en quelque sorte paysage ici, c'est-à-dire ce qui va s'ouvrir de cette pièce elle-même, hein, de cette pièce musicale qui nous est donnée à entendre, c'est évidemment tout l'espace sonore qui nous entoure, y compris tous ces sons, tous ces accidents qui surviennent donc à un moment donné et qui renouvellent, si vous voulez, systématiquement. C'est quelque chose qui me semble aussi tout à fait typique et à relever de l'art sonore expérimental ces dernières années, cette volonté farouche de reconnaître la dimension singulière de la musique la plus reproductible qui soit. Hein. Vous aurez beau en fait répéter ce disque 150 fois, évidemment comme il va jouer sur des sons extérieurs qui vont survenir, comme il va jouer aussi sur des formes de résonance, comme il va jouer sur votre propre corps, etc., comme il va se frotter aux autres objets, toute expérience sera par essence singulière en fait, assez difficile à décrire, parce que ce sont des musiques qui d'autre part, ça c'est l'objet d'une autre recherche, mais qui jouent sur une mémorisation également elle-même impossible. Donc une simple description d'une expérience comme ça sensorielle me semble possible, et puis éventuellement une typologie de certains des sons utilisés. Quoi qu'il en soit, c'est à partir donc de ces objets de reproduction comme ça massive que la musique actuellement tend à recréer de l'événement, tend à recréer de la singularité et tend à créer donc des paysages qui sont autres. Puisque nous dit Nancy, c'est une autre dimension assez importante. Le paysage, c'est pas du tout quelque chose qui préexiste en fait, mais c'est quelque chose qui justement par cette limite comme ça, par cet angle qui s'ouvre, va s'ouvrir et se créer. Hein. Il ne préexiste pas. Il s'agit au contraire de l'inventer, de le créer. Tout l'art sonore, à mon avis, a intérêt donc à aller dans cette direction de création de nouveaux ou d'autres paysages sonores. Ici, je voudrais faire un point justement qui rejoint un petit peu ces musiques-là, c'est qu'à mon avis, il y a eu un tort dans certaines critiques récentes, pas critiques d'ailleurs, en tout cas certaines théories récentes par rapport à cette musique, qui est minimale jusque dans sa présentation, hein, y compris au sein des pochettes, souvent assez peu d'informations, pochette blanche, noire ou grise, le blanc est particulièrement présent, et puis au sein des galeries, certains de ces artistes qui refusent toute intervention, toute interférence ou toute association plutôt visuelle, qui donc présentent leurs pièces au sein de galeries ou de musées, mais qui les présentent vraiment à nu, c'est-à-dire avec simplement des murs blancs, quelques enceintes, éventuellement un banc, ce qu'on a pu retrouver chez Richard Chartier. Et puis voilà cette possibilité donc de déambulation. Donc c'est Christophe Cox principalement qui avait écrit dans Art Forum un article à propos de Bernard Günther, de Ryoji Ikeda, de Richard Chartier, de Carsten Nicolai, les acteurs un petit peu principaux de ce mouvement, de cette mouvance, y voyant là une sorte de retour du modernisme, donc de cette espèce d'isolation et d'autonomie de l'art sur lui-même, ratant déjà ce déplacement en fait, de la musique dans le milieu des arts plastiques, mais aussi dans l'espace public, parce que ce sont des musiciens qui sont beaucoup intervenus aussi dans des espaces publics, notamment là encore des espaces un petit peu transitoires, que peuvent être les aéroports, les gares, où je crois que Ryoji Ikeda a été intervenu au Dome Millennium à Londres, mais là aussi dans une sorte de passage en fait, beaucoup plus bruyant justement que l'espace clos de la salle de concert ou de la galerie. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est une erreur en fait de retrouver donc une forme d'autonomie et de pureté comme ça moderniste sous prétexte que l'enrobage de ces dispositifs sonores serait blanc, donc nous renverrait au white cube moderniste complètement isolé. Puisqu'évidemment c'est le son lui-même, si vous voulez, qui va être créateur d'espace, et c'est le son lui-même qui va jouer sur ce principe de perte de repères et de perte d'orientation. Je pense principalement à Ikeda, qui travaille vraiment beaucoup, beaucoup dessus, et qui joue sur des fréquences extrêmes, lui à volume beaucoup plus fort, même s'il est classé, là encore, dans les ultra-minimalistes. En tout cas, des fréquences basses ou des fréquences aiguës extrêmement extrêmes, et qui agissent non seulement sur nos oreilles, mais qui agissent aussi à certains points souvent très, très particuliers du corps, et qui proposent d'autre part, autre forme, si vous voulez, d'ouverture et de création de paysages potentiels, qui propose finalement une infinité de présentations de ces pièces, celle qui a été présentée de la manière la plus diverse et variée possible, c'est la pièce qui s'appelle Matrix, qui avait d'abord été présentée en 2000 à Tokyo, dans une chambre anéchoïque, c'est Matrix for an Anechoic Room. Les chambres anéchoïques sont ces chambres comme ça complètement isolées des sons extérieurs, mais qui en plus à l'intérieur d'elles-mêmes ne réverbèrent plus aucun son. Donc qui sont là complètement isolés, je crois qu'il l'avait présenté dans le noir complet, donc c'était pour une seule personne à la fois, hein. Et l'auditeur devait donc s'installer comme ça dans cette pièce et ressentir les sons en l'absence de tout autre stimulus, notamment visuel. Mais évidemment, malgré cette isolation là, qui pourrait être plus extrême encore que le white cube moderniste, on a finalement une autre forme de désorientation et une autre forme de jeu sur les limites, puisque c'est le corps lui-même qui est atteint en tant qu'espace, en tant que paysage potentiel, puisque c'est le corps lui-même qui va se mettre à raisonner de lui-même. Donc on retrouve aussi cette idée du paysage qui s'ouvre de lui-même, et peu importe finalement la pièce, semble nous dire Ikeda, on aura toujours cette qualité, si vous voulez, des sons, ou de certains d'entre eux en tout cas, à provoquer comme ça cette perte de repère qui est très importante. Il l'avait présenté, c'est celle-ci qu'il avait représentée au Dôme Millennium de Londres. Cette fois-ci, la pièce s'intitulait Matrix for Acoustic Dislocation. Donc là, au contraire, on a vraiment l'idée de laisser les sons se diffuser, traverser les murs comme ils traversent les corps dans la pièce anéchoïque, et puis évidemment se mêler aux autres sons. Et puis d'autre part, il y a la version CD donc de cette pièce qui est là disponible pour tout un chacun, et évidemment qui peut être, si vous voulez, recréée à chaque fois qu'on va la passer, à chaque fois qu'on va la jouer, que ce soit dans l'espace privé, chez vous, avec votre propre système audio, que ce soit dans un espace public, et puis d'autres versions concerts aussi qu'il a pu présenter. Donc si vous voulez, cette infinité de propositions finalement par rapport à des espaces qui non seulement donc vont investir comme ça ces espaces, mais qui, comme je le disais, vont en plus complètement les transformer en faire des espaces autres, puisque c'est d'ailleurs des expériences qui sont intéressantes à faire justement chez soi ou dans des espaces en tout cas qu'on a qui sont extrêmement familiers, c'est qu'il y a une réalisation, je ne parle pas de quelque chose d'abstrait, mais une réalisation concrète d'un changement de rapport à son propre espace, y compris celui que vous connaissez le plus, vraiment un rapport au temps et à l'espace qui va être, dans la durée en tout cas, complètement transformé. Bien. D'autre part, l'autre limite possible, celle qui a pu être également travailler, creuser, c'est celle de l'entre-deux, celle de l'interstice en fait, qui a pu être radicalisée et qui là encore va s'ouvrir d'elle-même, l'entre-deux qui sera conservé non plus comme justement élément qui sert à joindre deux autres passages ou deux autres moments, mais comme interstice en tant que tel. Ici, je pense en particulier à Francisco López, un musicien espagnol qui travaille à partir de sources très très diverses. Il a fait des enregistrements dans une réserve naturelle au Costa Rica. Il travaille parfois avec des sons qu'il rend complètement méconnaissables. C'est quelqu'un qui se situe en fait dans une mouvance post-schaefferienne, mais je pense, pour reprendre ce que pouvait dire Bastien Gallet, ce matin, qui justement nous aide à avoir ces deux types d'écoute. Je pense que ça, c'est aussi, c'est effectivement l'un des points importants de l'art sonore actuel, la diversité. Même, je pense qu'il y en a beaucoup plus encore avec ce que j'appelle le parason, c'est-à-dire toutes les notes de pochette, toutes les informations et les fictions qui vont pouvoir naître à partir d'un même son, et donc toutes les écoutes possibles, soit simultanées, soit séparées. C'est à vous parfois de choisir, et puis parfois ça peut survenir comme ça sans crier garde. Bref, toutes les écoutes possibles qui surviennent. Mais en tout cas, Francisco López défend vraiment l'idée quand même d'un son qui, au départ, est coupé de sa source, même lorsqu'il ne les modifie pas du tout, comme c'est le cas de La Selva, donc, qui est le nom de ce lieu au Costa Rica qu'il avait pu utiliser. Évidemment, de toute façon, le fantasme d'une prise directe qui renverrait complètement à la source me semble lui-même... faux et impossible, puisque c'est ce que nous donne à entendre, que ce soit Francisco López ou tous les artistes qui ont œuvré dans le document sonore ces derniers temps, qui ont essayé de capter comme ça des sons, et à Locus Sonus, vous êtes directement concerné par cette question, capter des sons comme ça d'environnement extérieur, d'environnement hétérogène et d'ailleurs, c'est qu'effectivement, même sans les retravailler, c'est-à-dire même sans travail de post-production, même sans travail de montage, etc., on a une sélection qui se fait de toute façon dès le départ, c'est-à-dire une transformation finalement de ces sources qui ne nous sont jamais données à entendre dans une supposée comme ça réalité pure, mais qui sont déjà transformées. La simple audition par les oreilles est déjà une forme de sélection, On sélectionne toujours une certaine partie, puis on apprend aussi, ça ce sont des réflexes, des habitudes, à ne plus entendre certaines choses pour pouvoir justement se concentrer. Mais d'autre part, justement, tout l'appareillage technique va aussi médiatiser là, et rendre compte finalement de cette distance qui est prise dès le départ, finalement, avec tout enregistrement. Je pense qu'on peut le dire de tout enregistrement technique, ce qui paraît plus évident, mais effectivement aussi de tout enregistrement comme ça, biologique par les seules oreilles. Bref, quoi qu'il en soit, je voulais parler d'un disque en particulier de Francisco Lopez, qui était son disque de death metal, où il avait repris justement, c'est pour ça que je parlais d'entre-deux et d'interstices. Il est parti d'un seul groupe, personne n'a réussi à savoir de quel groupe il pouvait s'agir. Mais bref, de samples d'un seul groupe de death metal, mais en utilisant uniquement justement ces breaks qui sont ces breaks d'intensité dans le death metal, mais qui sont ces breaks aussi d'entre-deux, puisque le death metal généralement conserve des structures, si vous voulez, sous forme de chansons ou autres structures comme ça compositionnelles, qui sont donc quand même des moments inclus dans une forme de composition. L'aspect très intéressant chez Lopez, c'est que justement il va uniquement prendre tous ces breaks comme ça, tous ces moments d'intensité, tous ces moments qui seraient proches du climax dans la tragédie, mais ne plus les lier de façon hiérarchique à d'autres moments, et donc faire uniquement une montée de ces breaks qui sont mis de façon continue et qui sont superposés les uns les autres aussi. On a tout un travail de couche comme ça, de mixage, qui est très très important. Donc tous ces breaks vont durer. Et ce qui est très intéressant, ça c'est aussi l'autre point un petit peu limite, qui serait plus de l'ordre de l'anxiété ou d'une forme d'angoisse, qui serait, à mon sens, ce qui serait là encore l'objet aussi, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à en dire, notre recherche, mais d'une sorte de renouveau, en fait, de la question du sublime dans certaines pratiques récentes, qui me semblent vraiment, vraiment assez importantes. Cette anxiété provient du fait, en fait, que, contrairement à Günther, qui va rester, par exemple, sur ce bas volume, comme ça, en permanence, Francisco Lopez joue beaucoup sur les différences de relief, et dans certaines de ses pièces, comme ce Untitled numéro 104, joue sur des montées comme ça progressives très importantes, mais qui joue donc avec cette patience de l'auditeur qui ne sait pas à quel moment ça va pouvoir s'arrêter. Et donc cette musique va devenir de plus en plus forte, notamment dans les concerts où vous ne pouvez pas gérer vous-même, si vous voulez, le volume sonore. Un autre artiste très important qui travaille vraiment sur ce principe d'intensité du volume sonore, c'est Kozo Inada aussi. Voilà, donc je vais passer là aussi un court extrait de... Ouais. C'est ? De quelle année ? Untitled 104, il l'a publié en 2000 sur un label canadien qui s'appelle Alien 8. Alien est le 8. Mais si vous le souhaitez, je mettrai de toute façon, je pense, les références. En tout cas, on trouvera un moyen sur le site ou autre. Hein. Voilà. Alors d'ailleurs, très souvent, je mentionne Francisco Lopez, la plupart du temps même, qui fait donc de très très longues pièces, commence avec plusieurs minutes de silence, en tout cas de silence numérique, avant soit, dans le cas de l'Untitled 104, de commencer comme ça très très violemment, soit au contraire de monter petit à petit le son. Ici, c'est une pièce qui dure une quarantaine de minutes, qui finit par une dizaine aussi de minutes de silence numérique. En ce sens, d'ailleurs, il rejette complètement le silence de Cage, puisqu'il pense que le silence pris dans une rhétorique, on pourrait faire le lien avec la définition du silence de Susan Sontag. Le silence est possible à partir du moment justement où on l'oppose, et le silence est toujours pris en fait dans ce principe rhétorique et dialectique d'être toujours comparé au bruit. Le silence ne peut être défini qu'en tant qu'absence de bruit. Donc pour Francisco Lopez, il y a ce silence possible qui est cette mise en condition justement de l'auditeur vers ses pièces.
Voilà, vous avez une petite idée. Claire, je sais pas à quelle heure on a commencé, alors je vais peut-être... Ouais. J'aimerais peut-être finir juste en mentionnant justement Carl-Michael von Oswolf et puis bon, faire l'impasse sur d'autres choses. Il n'y aura pas de conclusion, ce ne sera pas fini, mais c'est un peu le principe pour l'instant de cette recherche qui est en cours. Voilà. Oui, pour finir, l'un des artistes, en tout cas, ils sont deux, mais il y en a un peut-être qui dans ses propositions sonores également, va assez loin dans ce principe. Deux artistes suédois qui, eux, travaillent justement sur tout un tas de frontières et de limites à ouvrir, voire à habiter. Je veux parler de Carl-Michael von Oswolf et Leif Elgren, qui sont notamment les rois de deux royaumes autoproclamés en 1992, les royaumes d'Helgaland-Vargaland. Helgaland, en fait, étant constitué de toutes les zones frontalières sur tous les pays sur Terre, ainsi que des zones maritimes qui n'appartiennent à aucun État ou aucune nation, puisqu'évidemment, sur chaque frontière, si vous voulez, on a une zone qu'on appelle le territoire en bordure, le border territory, ou le no man's land, qui n'appartient en fait ni à l'un ni à l'autre des États. Et ils ont décidé en fait, de proclamer comme ça Vargaland comme État qui serait contenu dans toutes ses frontières. En 92, c'est-à-dire peu après la chute du mur de Berlin, et peu après aussi l'explosion en micro-État de l'URSS. Donc il y avait vraiment là une partie prenante sur les frontières qui était complètement en train de bouger, en train de se transformer. Leur but dès le départ est vraiment d'habiter justement la frontière même. Hein, on le retrouve vraiment le paysage comme ça qu'on pouvait avoir, le paysage dépaysé de Nancy. Vargaland, quant à lui, c'est un État qui est constitué de tous les entre-deux, en fait, perceptifs, sensoriels, que sont les États entre raison et folie, par exemple, entre veille et sommeil. Bref, toutes ces autres formes d'entre-deux constituent le royaume de Vargaland, donc que vous le souhaitiez ou non, vous vous trouvez toujours en Vargaland lorsque vous êtes dans un de ces états, et puis aussi une partie numérique, une partie en réseau, donc avec un site, une véritable constitution, des passeports. Voilà, on peut tous devenir d'ailleurs citoyens d'Helgaland, Vargaland. Et donc ils ont fait un certain nombre d'actions qui me semblent aller complètement dans le sens justement de cette ouverture de la limite, de la frontière, c'est-à-dire que la frontière ne sert plus à séparer et ne sert plus à clore, mais sert au contraire à ouvrir, à condition de s'ouvrir d'elle-même, notamment une action qui avait été réalisée le 14 octobre 2001, soit pour les 10 ans, non pas de la proclamation officielle d'Helgaland-Vargaland, mais les 10 ans en tout cas du point de départ des deux royaumes, où une dizaine de citoyens munis uniquement en fait, de leur passeport d'Helgaland-Vargaland, qui sont évidemment des passeports qui sont pas reconnus par les États-nations, ont décidé de faire le voyage de Suède en Estonie. Et leur but était, en fait, une fois en Estonie, de se faire renvoyer en Suède, puisqu'ils n'avaient pas de passeport valide, mais une fois revenus en Suède, de se faire renvoyer en Estonie, pour la même raison, et de rester donc comme ça à jamais en Helgaland, c'est-à-dire sur ce territoire frontalier, sachant d'autre part que quand on devient citoyen, on devient immortel, donc de toute façon, ils pouvaient faire durer l'action très très longtemps. Voilà, bref, et donc toute la pratique, si vous voulez, de Carl-Michael von Oswolf est très très liée aussi à cette question, outre donc toutes les actions qui peuvent être liées à Helgaland-Vargaland, est très liée à cette question de la limite ou de la frontière. Il a réintroduit d'autre part toute une forme de mythologie ou de fiction, c'est là que justement je parlais d'écoute possible, par rapport à des musiques qui en tout cas, entendues en tant que telles, nous paraissent assez abstraites. Il joue beaucoup sur le son en tant que tel, mais le son vraiment dans sa propagation électrique, hein, le son comme relais d'énergie vraiment électrique, donc des textures comme ça extrêmement électriques qui vont superposer les unes les autres. Mais parallèlement à ça, donc il recrée tout un tas de mythologies qui finalement étaient déjà présentes à l'invention des premiers supports de reproduction, que ce soit les supports de reproduction visuels, je parle des supports de reproduction mécaniques visuels comme la photographie, mais c'était aussi le cas en fait du phonographe dès le début. C'est qu'il a été lié dès le début en fait à la mort et à aussi une mythologie et une fiction de la mort et des fantômes. Dans la photographie, on avait la photographie de spectre ou d'aura, ce qui aurait beaucoup plu à Benjamin. Et évidemment, avec le phonographe, on avait aussi, c'était Edison, je crois, dès le départ, hein, qui disait que ça allait servir à enregistrer les morts. Effectivement, il y a aussi ce principe de la reproduction qui est d'enregistrer, donc de mettre à mort, comme ça, une voix donnée. Jonathan Stern en parle également dans The Audible Past, d'ailleurs, de ce principe de mise à mort en fait, du son. Bref, quoi qu'il en soit, en fait, il est revenu justement. Il a beaucoup travaillé autour de ce qu'on appelle les Electronic Voice Phenomena ou EVP, qui sont en fait ces voix captées sur ondes courtes ou au téléphone, qui sont censées être les voix soit des morts, soit des martiens. Il a publié tout un album qui s'appelle Operation of Spirit Communication, opération au pluriel. Où donc von Oswolf tente de rentrer en contact avec les esprits munis de son appareillage comme ça extrêmement électrique. Et on va entendre à certains moments, je suis pas sûr qu'on les entendra là, mais certains electronic voice phenomena justement qui ont pu être enregistrés, sachant d'autre part que l'album a été dédicacé à Friedrich Jürgensen, qui était l'un des grands avec Raymond Casse et Constantin Rodive, l'un des grands enregistreurs de tous ces electronic voice phenomena. Voilà, Carl Michael von Oswolf aussi a publié, enfin a aidé à la publication de deux volumes d'archives, justement, brutes, là, pour le coup, de ces EVP. Bref, donc on va finir sur ce qui passait quand vous êtes rentré dans la salle, d'ailleurs, par un extrait de cette opération d'entrer en communication avec les esprits. Simplement pour vous donner une courte idée, on a pu entendre quand même quelques esprits qui nous parlaient. Je mentionne juste pour terminer, d'ailleurs que cet album a été publié uniquement sur vinyle, donc là où il y a un rapport justement direct à cette ancienne technique, mais parce que d'autre part, il y a toute une électricité statique et tout un tas d'autres grains sonores qui viennent se rajouter en fait à ce phénomène électrique qui est donné à entendre, où on retrouve par ailleurs l'opération de transduction qui est donc propre à la reproduction sonore. Sauf que certains artistes, c'est eux dont j'aurais aimé parler, ce sera bon, bah, pour une autre fois, travaillent justement sur ce qui se passe dans l'opération de capture elle-même, si vous voulez, avant même la restitution du son. Je pense notamment à des artistes japonais qui ont branché des machines qui sont censées être des machines relais, des machines qui contiennent de la mémoire, sampleurs ou tables de mixage, et qui nous ont branchés sur eux-mêmes pour voir quel son ça pourrait produire, à partir donc là encore d'une limite qui s'ouvre complètement. Sachiko M, qui travaille à partir de sampleurs vidés de toute mémoire, et puis c'est Toshimaru Nakamura qui branche donc des tables de mixage sur elle-même, là encore, qui crée des feedbacks, des résonances qui gonflent comme ça, mais dans l'intérieur même de leur petite boîte. Voilà, donc je m'arrête là.